Voilà, nous allons poursuivre. On va attendre que. Voilà, merci. Nous allons poursuivre ce matin notre nouvelle série apologétique avec un deuxième volet à la question « Dieu existe-t-il ? » La dernière fois, nous avons considéré les arguments des agnostiques et surtout ceux des athées. Et ce matin, nous allons considérer certains arguments des théistes, c'est-à-dire de celles et ceux qui disent que Dieu existe. Je rappelle que dans cette réflexion, nous sommes principalement sur le terrain de la raison et non pas sur le terrain de la foi. C'est important de le préciser, même si je ferai quelques passerelles, mais nous sommes donc sur le terrain de la raison avant tout. Et je rappelle aussi que nous parlons d'arguments et non pas de preuves. En effet, je l'ai démontré entre guillemets la dernière fois, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais nous avons vu que de façon empirique, c'est-à-dire de façon vérifiable, expérimentable, il n'est ni possible de prouver que Dieu existe, ni possible de prouver qu'il n'existe pas. Alors, le sujet étant vaste, je vous propose de passer rapidement, sans autre, au deuxième point qui est le point essentiel, les arguments théistes. Et je vais en développer trois ce matin, essentiellement trois. J'en mentionnerai simplement deux autres à la fin. Il a fallu faire des choix, tant il y avait de matière, et désolé si j'aborde pas peut-être le point en particulier sur lequel vous vouliez m'entendre ce matin. Et j'aimerais souligner, avant d'entrer dans le vif du sujet, que tout ce que je vais dire ce matin, pour tout ce que je vais dire ce matin, je suis entièrement redevable à toutes les lectures que j'ai faites et à quelques vidéos aussi que j'ai pu consulter en ligne. Et j'essaierai, dans un souci déontologique, de citer mes sources le plus souvent possible sans que ce soit trop redondant ou trop contraignant. Face aux arguments agnostiques et aux arguments athées, quels arguments rationnels pouvons-nous développer d'un point de vue théiste ? C'est ça la question qui nous intéresse ce matin. Face aux arguments des agnostiques et des athées, quels arguments rationnels pouvons-nous développer du point de vue théiste pour pouvoir tout simplement échanger avec nos contemporains, discuter avec eux sur un pied d'égalité? L'apologétique chrétienne va proposer toutes sortes de choses, toutes sortes d'arguments, et force est de constater que les approches sont variées, ne sont pas les mêmes, tout le monde ne s'accorde pas, et tout le monde ne s'accorde pas sur la valeur des arguments des uns et des autres. Je vous mets une partie d'un tableau qui se trouve dans un livre que j'ai déjà cité la dernière fois, qui s'intitule « Une foi des arguments », « Une foi, virgule, des arguments », coécrit par Lydia Yeager et Alain Nisus, dans lequel nous avons les cinq grandes écoles apologétiques. Et petite parenthèse, si jamais vous voulez creuser la question de l'apologétique chrétienne, c'est vraiment un bon outil. Si vous avez du temps, c'est un gros pavé, 990 pages, mais chaque chapitre est indépendant. Mais si vous voulez creuser ces sujets, c'est vraiment bien rédigé et c'est quand même relativement accessible, même si par moments, il faut s'accrocher, il faut relire deux, trois fois la même phrase. Cinq grandes écoles, l'apologétique classique, l'apologétique empiriste, l'apologétique de la subjectivité comblée, l'apologétique présuppositionnaliste et puis l'épistémologie réformée. Alors, il y en avait pour trois jours, là, s'il fallait tout passer en revue. Donc, je me suis essentiellement concentré sur les deux premières catégories, sur les deux premières écoles, l'apologétique classique et l'apologétique empiriste. Et vous verrez que nous sommes effectivement sur le terrain de la raison et sur celui de l'expérience. Passons au premier argument, si ma télécommande veut bien, voilà. Notre univers a eu un commencement. Voilà le premier argument qui dit que notre univers a eu un commencement et c'est pourquoi Dieu existe. Alors quel est le raisonnement ici ? Ici, nous raisonnons sur le principe de cause à effet, que nous connaissons tous. Un principe qui dit que tout ce qui a eu un commencement a nécessairement une cause. Et cette cause, dit cet argument, c'est Dieu. Alors, notons tout de suite que cet argument ne dit rien sur la nature de Dieu. Il ne dit pas qui est Dieu. Il dit seulement, il y a un Dieu créateur. Ce Dieu existe et il est la cause de toute chose. Alors pour bien comprendre ce premier argument, et peut-être surtout pour comprendre toute sa force, il y a au moins deux choses essentielles qu'il faut comprendre. Premièrement, le fait que depuis Aristote, ça remonte assez loin, les hommes pensent que, et pensaient que le monde est éternel et que la matière est éternelle. C'est ce qu'on appelle le matérialisme, tout simplement. Et puis deuxièmement, alors que les hommes partout ont toujours cru en un Dieu, sous une forme ou sous une autre, la science, par ses énormes progrès, en particulier au XIXe siècle, a fini par s'imposer comme l'alternative à Dieu, a fini par remplacer Dieu dans la compréhension du monde. L'anecdote vraie que je vais vous raconter, qui suit, suffit à elle seule pour expliquer ce changement de mentalité. C'est un personnage qui s'appelle Pierre-Simon Laplace, vous avez peut-être entendu parler, un grand scientifique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, qui est entre autres connu pour son œuvre magistrale en 5 volumes, qui s'intitule « Mécanique céleste », 5 volumes où il explique le fonctionnement du système solaire. Et il a un jour présenté ce fonctionnement, tout ce qu'il a écrit à Napoléon, son modèle de l'univers. Et après la présentation, Napoléon lui a demandé « Et Dieu dans tout ça ?» Et Laplace a répondu « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. La science qui a complètement remplacé l'idée de Dieu dans la compréhension du monde et de l'univers. Et de Copernic à Darwin, en passant par Galilée, Newton, Laplace et j'en passe, la science s'est donc imposée comme l'alternative à Dieu, venant conforter la thèse matérialiste qui dit que l'univers est éternel et exclusivement matériel. Mais voilà, au début du XXe siècle, la tendance a commencé à s'inverser parmi les scientifiques. Elle a commencé à s'inverser par une succession de grandes découvertes scientifiques dans des domaines très pointus que vous connaissez, moi, beaucoup moins, la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la théorie du Big Bang, ça nous parle un peu plus, le réglage fin de l'univers, etc. Voilà un schéma que je tire d'un livre que je n'ai pas encore eu dans la main, mais dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai entendu beaucoup de choses sur YouTube, des conférences sur ce livre, qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve », coécrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis. Et voilà un des schémas de ce livre qui montre l'inversion de la tendance. À un moment donné, on est vraiment descendu vers les thèses matérialistes, et puis à partir du XXe siècle, ça remonte vers l'idée de Dieu. Et toutes ces découvertes, et là on a les scientifiques les plus représentatifs, ont donc amené, à partir du début du XXe siècle, ont amené les scientifiques à comprendre et à acquérir la certitude qu'il y a un commencement absolu au temps, à l'espace et à la matière. Ça, c'est la découverte incroyable du XXe siècle. Il y a un commencement absolu au temps, à l'espace et à la matière, et la cause de tout cela ne peut être qu'en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Et là, nous commençons à nous approcher de l'idée de transcendance et donc de l'idée de Dieu. Et toutes ces découvertes font qu'aujourd'hui, il y a une grande unanimité. J'entends dans tout ce que j'ai consulté que c'est une quasi-unanimité, peut-être même une unanimité totale sur cette question chez les scientifiques pour dire que l'univers a eu un commencement, il aura une fin et surtout une cause qui lui est étrangère. Alors c'est un revirement total de situation et qui rapproche beaucoup la science de Dieu. Et vous connaissez sans doute la citation de Francis Bacon, ça se mange pas, c'est un philosophe anglais du XVIe siècle, qui a dit ceci: un peu de foi éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Et c'est en réalité ce qui s'est passé d'une certaine manière dans le XXe siècle. Cette compréhension du commencement de l'univers, la fameuse théorie du Big Bang, repose essentiellement sur trois piliers aujourd'hui qui sont incontestés, en tout cas par les scientifiques, sérieusement, semble-t-il. Le premier pilier, c'est la découverte en 1929 de l'expansion de l'univers. Ça a été une révolution, la découverte que l'univers est en expansion. L'expansion de l'univers, c'est simplement la fuite des galaxies les unes par rapport aux autres, et c'est cette notion d'espace-temps qui se dilate. Je vous dis ce que j'ai lu, hein, moi. Le deuxième pilier, hein, j'ai l'air de comprendre tout ça très bien, mais bon. Le deuxième pilier, c'est la découverte de l'écho du Big Bang par les scientifiques en 1964. Donc vous voyez, c'est très récent. 1964, on a pu entendre l'écho du Big Bang dans l'univers. Et puis, troisième pilier, alors ça, c'est encore plus récent, là, c'est les années dans lesquelles nous vivons, ce sont les récentes photographies par des satellites, des antennes radio, des télescopes, enfin, tout ce que vous voulez, des sondes, etc., qui ont permis de photographier l'univers il y a très, 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 très longtemps, puisqu'on a des clichés d'il y a à peu près 13,5 milliards d'années. Voilà ce que je lis et ce que j'apprends sur les piliers de cette théorie du Big Bang qui aujourd'hui est acceptée par tout le monde. Et donc nous sommes aujourd'hui devant des données scientifiques acceptées par tous apparemment et qui amènent à une véritable révolution conceptuelle qui débouche inévitablement comme une option très sérieuse, en tout cas, sur l'idée d'un Dieu créateur. Et c'est ici l'idée philosophique, hein, dont on a déjà entendu parler, du grand horloger ou du grand architecte. Quand je vois une montre que moi je ne porte pas, mais que beaucoup portent au poignet, je sais qu'il y a un horloger derrière qui l'a fabriquée. C'est une évidence. Je ne rencontre pas l'horloger, je ne le vois pas, mais je sais qu'il existe. Cette montre est là parce qu'il y a eu un horloger qui l'a fabriqué. Et de même, quand je vois l'univers, je sais qu'il y a un créateur derrière. Je ne le vois pas, je ne le rencontre pas physiquement, mais je sais qu'il existe parce que l'univers est là pour en attester. Et même Voltaire, qui n'avait pas que des choses positives à dire sur la religion en particulier, et même Voltaire disait « l'univers m'embarrasse ». Et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Maintenant, qu'en est-il du hasard ? Qu'en est-il du hasard ? Si l'idée de Dieu s'impose à beaucoup devant les avancées de la science dont nous venons de parler, certains, quelques scientifiques, et puis surtout dans le grand public qui n'est pas toujours informé de toutes ces choses, certains pensent au hasard comme l'explication comme la seule explication possible et plausible à l'origine de l'univers. On va parler de probabilité un petit peu plus tard, mais ici j'aimerais simplement souligner que le hasard n'explique jamais, ou le hasard ne peut jamais être la cause de quoi que ce soit, malgré l'idée reçue, malgré ce qu'on dit toujours à ce sujet. Et là, je cite un auteur, Stephen Gokroger, qui dit ceci. « La chance ou le hasard ne sont pas la cause de quoi que ce soit, ce n'est qu'une description d'événements pour lesquels nous ne trouvons pas de cause ou d'explication adéquate. » Il y a toujours une cause, il y a toujours une explication, on ne la sait pas, on ne la comprend pas, on l'appelle le hasard, mais ce n'est pas pour ça que la cause n'existe pas. Et puis il poursuit avec un exemple plutôt parlant. Si un cheval coté à 200 contre 1, qui boite et est aveugle d'un œil, remporte le prix de l'Arc de Triomphe, on dira qu'il a eu de la chance, même beaucoup de chance. Mais ce n'est pas cet élément chance qui a fait que le cheval a gagné. En parlant de la sorte, on démontre que l'on est incapable d'expliquer comment il a gagné. Et de même, dire que l'apparition de l'univers est due à la chance ou au hasard revient à dire qu'il est bel et bien apparu, mais que l'on ne sait pas comment. Si le hasard et la chance n'expliquent rien du tout du commencement de l'univers, qu'en est-il du néant ? De cette notion du néant à partir duquel aurait jailli l'univers, en tout cas dans sa forme primitive. Certains vont chercher une explication de ce côté-là, l'explication du néant. Mais en réalité, rien ne peut surgir du néant. Conceptuellement, on le comprend bien. Ce qui n'est pas, ne peut pas donner lieu à ce qui est. C'est une impossibilité. Ce qui n'est pas ne peut pas donner lieu à ce qui est. Et donc, je ne développe pas plus, l'hypothèse du néant ne me paraît quand même pas très très sérieuse. Tout ce que nous venons de dire rejoint un argument philosophique qui est bien connu, l'argument cosmologique de saint Thomas d'Aquin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il en a développé 5, on appelle les 5 voies de saint Thomas d'Aquin. Et nous rejoignons ici, quand même, dans les grandes lignes, cet argument cosmologique qui dit qu'il est impossible de remonter de cause en cause à l'infini. Il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait une cause première. Voilà ce que ça veut dire. On ne peut pas, à l'infini, remonter de cause en cause, en cause, en cause. Il faut bien un jour que ça commence quelque part. Il faut nécessairement une cause première, et cette cause première, dit saint Thomas d'Aquin, ne peut être que Dieu. Alors certains peut-être poseront ici la question de l'origine de Dieu. Mais alors, bon, si Dieu est la cause première, d'où vient Dieu ? Qui a créé Dieu ? Vaste question. D'un point de vue philosophique, on a peut-être quelques éléments, on ne peut pas dire grand-chose, si ce n'est de dire que si quelqu'un a créé Dieu, c'est qu'il est plus grand que Dieu. Et donc, Dieu n'est pas Dieu. C'est l'autre qui est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne ne peut être plus grand que Dieu, dans le concept que l'on a de Dieu. Et donc, personne, philosophiquement parlant, n'a pu créer Dieu. On peut apporter une réponse de la foi aussi à l'origine de Dieu, et cette réponse, en réalité, elle ne peut être que basée sur la foi, qui elle-même est basée sur la révélation que Dieu a faite de lui-même dans la Bible. Et là, nous pouvons effectivement apprendre à connaître qui est Dieu, connaître par nous-mêmes ce qui est transcendant, parce que nous n'avons aucun moyen de sortir de notre réalité, l'espace, le temps, la matière, pour aller voir qui est Dieu et comment il est. Dieu nous est complètement accessible, inaccessible, pardon. Et donc, si Dieu ne se révèle pas, nous ne pouvons pas savoir qui il est. Dieu s'est révélé et il s'est révélé à nous comme le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu de toute éternité. Ça reste bien évidemment quelque chose de difficile à imaginer pour nous, mais c'est ce que nous lisons dans la Bible. Je termine ce premier argument simplement en soulignant ici la convergence remarquable entre cette compréhension d'un univers qui a un commencement, qui est maintenant une chose acquise par la science, et cette théorie du Big Bang, donc, et la première parole de la Bible, quand même. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Convergence remarquable avec ce que disent les scientifiques des premiers instants de l'univers. Et apparemment, beaucoup de choses se sont passées dans les trois premières minutes, et il semblerait que les trois premières minutes, ce n'était que de l'énergie et de la lumière. Et tout de suite après cette parole, au commencement, Dieu créa, vient une autre parole, Dieu dit que la lumière soit. Remarquable convergence avec le texte biblique. Et comme le dit le psalmiste au psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Pour qui veut bien le voir et le croire ?» Nous passons au deuxième argument, l'univers est réglé de façon fine. C'est l'argument du réglage fin de l'univers, c'est comme ça que ça s'appelle en français. C'est ainsi que les scientifiques formulent la chose. Et l'argument ici, c'est que Dieu existe parce que notre univers est réglé d'une manière tellement fine, tellement précise, que le hasard et l'aléatoire ne peuvent pas expliquer la manière dont tout ça fonctionne ensemble. Et cet argument s'étoffe quand on le juxtapose avec un des principes que vous connaissez bien évidemment de la thermodynamique, le principe d'entropie, hein, vous connaissiez bien sûr, alors pas entropie comme anthropos l'homme, hein, mais entropie E-N-T-R-O-P-I. Et voilà ce que dit ce principe de l'entropie. Il dit que tous les objets, la thermodynamique c'est compliqué, mais ça on le comprend facilement, tous les objets, si on les laisse livrer à eux-mêmes, ont tendance à passer d'un état d'ordre à un état de désordre et de décomposition. Il n'y a rien d'immuable. Par exemple, les corps se décomposent, les voitures rouillent, les montagnes s'érodent, les horloges se dérèglent, les étoiles s'éteignent, etc. Il n'y a rien qui ne reste dans l'état où il est. Tout finit par s'user. On passe d'un état d'ordre à un état de désordre et de décomposition. C'est le principe d'entropie. Or, malgré ce principe indéniable, que nous pouvons tous vérifier autour de nous, tous, hein. On le constate dans tous les domaines de la vie, ce principe d'entropie. Malgré cela, les scientifiques constatent que l'univers est incroyablement stable. Et que les lois et les principes qui le régissent sont stables et réglés au millimètre près, avec une extrême minutie. Et là, j'ai découvert qu'il y a apparemment une trentaine de nombres qu'on appelle des constantes physiques qui structurent l'univers dans ses lois physiques. Ce n'est pas beaucoup, 30 nombres, alors que la diversité de l'univers et du monde est phénoménale. Il n'y a apparemment qu'une trentaine de lois qui règlent tout ça. Et si ces constantes n'étaient pas réglées, voilà ce que disent les scientifiques, si ces constantes n'étaient pas réglées précisément, parfois jusqu'à la 120e décimale, alors repartez à l'école, hein, 120e décimale, c'est 120 chiffres après la virgule. Ça veut dire que si vous changez un petit chiffre là, à la 120e décimale, ça ne marche pas. Voilà ce que ça veut dire. Olivier Bonassis, donc le co-auteur de ce livre « Dieu, la science, les preuves », dit « On ne serait pas là pour en parler ». Alors un mot sur ces constantes physiques qui sont incroyables. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de nombres, hein, des nombres qui ne changent pas, qui sont toujours les mêmes, c'est des constantes, donc ça ne change pas. Et donc ça permet d'expliquer comment l'univers fonctionne. Alors quelques exemples, hein, on parle ici par exemple de la gravité, hein, c'est un chiffre qui ne change pas. Partout, toujours, tout le temps, c'est la même chose. L'électromagnétisme, il y a une constante. la mécanique quantique, l'interaction des particules dans les noyaux, la vitesse de la lumière, etc. Tout ça, ce sont des chiffres qui ne varient pas, qui sont toujours les mêmes. Allez, une petite image, ça vaut mieux qu'un mille mots. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez, alors c'était un peu long à saisir, donc j'ai juste pris un cliché. Voilà 20 de ces constantes physiques qui structurent, règlent notre univers. Ces nombres, si vous arrivez à voir, c'est pas 1 et 2, hein, c'est des nombres très grands, très complexes, très précis. Et les scientifiques sont donc arrivés à la conclusion, après beaucoup de calculs, d'hypothèses, et on a calculé, recalculé, qu'une très légère variation dans un de ces nombres-là, et il n'y a plus rien qui fonctionne. Et la vie dans l'univers n'est plus possible, disent-ils. Alors je prends deux exemples que je tire de ce qu'Olivier Bonassis dit dans une conférence qu'il a donnée. Premièrement, la gravité. La gravité, on sait tous ce que c'est. Si je laisse tomber ça par terre, ça tombe. Enfin, si je le lâche, ça va tomber. Donc, la gravité, c'est une constante G. Et G, vous savez, c'est égal à... Alors, moi, j'ai 6,67430. Alors, peut-être que ce n'est pas une constante, hein, mais... Non, voilà, 6,67430. Et apparemment... 6,67430, si c'est 429 ou 431, ça ne marche plus. Voilà ce que disent les scientifiques. Si c'est 429 ou 431, soit les étoiles brûlent plus longtemps, encore que ce qu'elles ne brûlent et ça dérègle tout, soit elles ne brûlent que quelques années, en lieu de brûler des milliards d'années, et donc tout ce qu'elles produisent, en particulier les métaux lourds, ne sont pas produits et la vie ne peut tout simplement pas se développer. Deuxième exemple, dans les années 60, un scientifique du nom de Dicke calcule que la vitesse d'expansion de l'univers est réglée avec une incroyable précision, que si on changeait la vitesse à la 15e décimale, donc 15 chiffres après la virgule, soit on irait plus vite et les galaxies n'auraient pas eu le temps de se former, 15e chiffre après la virgule, soit on irait plus lentement et tout serait devenu, dès le départ, simplement un trou noir. Voilà. Alors, des exemples comme ça, en réalité, il y en a des centaines. En 1988, il y a un livre qui a été publié par deux scientifiques reconnus, Barrow et Tipler, qui en ont dénombré 200. Et apparemment, tous les ans, on en trouve d'autres, de ces chiffres qui expliquent, qui montrent que, comment fonctionne. Et si on change le chiffre, ça ne fonctionne plus. Donc le réglage fin de l'univers, c'est ça, c'est cette idée que tout doit être réglé à la perfection dès le départ. Et en réalité, tout est réglé dès le premier instant, à partir du moment où le Big Bang a lieu et qu'il y a la vitesse d'expansion, quand tout ça se met en branle, ben, tout est réglé dès le départ avec cette précision. Et l'exemple que l'on donne parfois, c'est que pour que ça fonctionne, il faut donc que chaque réglage soit précis, et que c'est un petit peu comme si vous voulez faire décoller un Boeing 747, vous êtes dans le cockpit, vous avez des boutons partout, vous devez régler à droite, à gauche, là, 50, 100 boutons. S'il y en a un qui n'est pas au bon endroit, ça ne décolle pas. Eh bien, c'est exactement pareil. Dans ces constantes-là, s'il y a un chiffre qui n'est pas au bon endroit, ça ne fonctionne plus. Alors, à tous ces réglages fins de l'univers, on pourrait ajouter beaucoup d'autres constatations qui montrent que donc, tout se tient sur le fil du rasoir pour que la vie puisse apparaître et surtout pour qu'elle puisse demeurer. C'est une chose que la vie apparaisse, c'est une chose que les conditions soient réunies pour que la vie se maintienne. Et là, je cite à nouveau Stephen Gokroger qui dit « Tout semble se tenir de manière extraordinaire. Voyons quelques exemples. Si la Terre était plus petite ou plus grande qu'elle n'est, elle ne pourrait pas conserver une atmosphère respirable pour l'homme. Si nous étions un tantinet plus près du Soleil, nous rôtirions. Si nous en étions plus éloignés d'un cheveu, nous gèlerions. » Si la Terre tournait plus lentement sur elle-même, si son angle d'inclinaison était différent, si la couche d'ozone qui l'enveloppe était plus fine, si la Lune en était plus proche, etc. Toutes ces hypothèses sont synonymes de désastre pour notre planète. Pourtant, chacun de ces paramètres reste en harmonie avec les autres, permettant à la vie sur Terre de se perpétuer. Et donc, devant toutes ces constatations et beaucoup d'autres encore, la réalité, c'est que les scientifiques sont stupéfaits, tout simplement. Ils sont stupéfaits. Comment se fait-il que tout soit réglé aussi minutieusement, aussi précisément? Comment expliquer cette incroyable stabilité? D'où vient-elle? Est-il concevable que cette stabilité et cette précision soient le fruit d'un infini concours de circonstances aléatoires? Parce que si je ne crois pas en Dieu, il faut que je croie à ça. Et encore, je n'ai pas réglé tous les problèmes. Et donc, il semblerait que le consensus soit très très large aujourd'hui parmi les scientifiques pour dire que ça se soit fait comme ça, au petit bonheur, la chance, c'est hautement improbable et absolument inimaginable. Et donc, à toutes ces questions, les athées n'ont pas d'explication et disent simplement que c'est encore un des grands mystères de la physique qui reste à découvrir. Mais par contre, c'est assez frappant parce que quand on lit ce qu'ils écrivent, très très régulièrement, ils n'hésitent pas, et c'est paradoxal, à utiliser le mot miracle. Hein. Voilà, c'est un miracle, voilà, ça, c'est réglé à la 120e décimale, c'est un miracle que ça fonctionne. Les croyants, quant à eux, disent que c'est Dieu qui est à l'origine du réglage fin de notre univers. Il a non seulement créé la vie, mais il la maintient. Hein, j'insiste sur cette distinction. Il l'a créée et il la maintient. Et quand on dit cela, on pense à ce texte des Colossiens qui dit que tout a été créé par lui, le Fils, et pour lui, il est avant toute chose. C'est quand même incroyable hein, quand on pense aux formulations. Hein. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il maintient toute chose. Là aussi, il y a une remarquable convergence avec le texte biblique. Si certains voient donc la main créatrice de Dieu derrière tout ça, d'autres pas, bien évidemment. Alors, quelle est l'alternative au Dieu créateur? Quelle est l'alternative si on veut, malgré tout ce que nous venons de voir, avec ce réglage fin de l'univers, quelle est l'alternative pour maintenir une position matérialiste? Et la seule hypothèse qui existe aujourd'hui, face à la certitude que l'univers a un commencement, face aussi à ce principe d'entropie, hein, que tout se dégrade, et à la conclusion logique d'un Dieu créateur, la seule hypothèse qui existe aujourd'hui, c'est l'hypothèse du multivers. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les fans de Marvel sans doute, ça c'est une petite parenthèse pour les jeunes, mais le multivers, c'est simplement de multiples univers. Uni, c'est un, multi, c'est plusieurs. Multivers, c'est l'idée qu'il y a plusieurs univers. Et l'hypothèse des multivers, en réalité, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, les scientifiques, qui s'accrochent à ça. Cette hypothèse, c'est qu'il y a des milliards de milliards de milliards d'univers. Déjà, il faut arriver à visualiser ça. Alors, c'est un chiffre qui est immense parce que les probabilités que ça existe, c'est immense. Hein. Donc, si vous avez une énorme probabilité, après, ça se traduit par des milliards de milliards de possibilités. Et donc, il y a des milliards de milliards de milliards d'univers et nous sommes dans le bon. Nous sommes dans celui où ça a fini par fonctionner. Tous les autres, ça n'a pas fonctionné. Et nous sommes dans l'univers où ça a fini par marcher, où la vie est apparue, où elle s'est maintenue, où l'évolution a pu se faire par elle-même toute seule. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est, là encore, hautement improbable, et c'est même statistiquement quasiment indéfendable. Notons qu'en plus de l'improbabilité de cette hypothèse du multivers, quand nous maintenons une position comme celle-là, nous avons toujours le même problème dont on a parlé au premier point, c'est le problème de la cause première, ok ? qu'on ait un univers ou qu'on en ait des milliards, à un moment donné, il faut une cause première. Et cette cause première, on ne peut pas l'expliquer si on ne fait pas intervenir l'idée de Dieu. Alors, tout ce que nous venons de dire ici rejoint là encore un argument de Thomas d'Aquin. C'est l'argument téléologique. Téléos, c'est la fin en grec, donc c'est l'argument qui dit que tout l'univers a une finalité. Et qui dit donc que l'exceptionnelle conception du monde prouve l'existence d'un concepteur divin. L'exceptionnelle conception du monde prouve l'existence d'un concepteur divin. Et Lydia Yeager écrit l'argument téléologique, dans ses diverses formes, il y en a pas formes mais formes, affirme que l'univers dans son ensemble, par exemple les lois de la nature et les constantes naturelles dont on a parlé, ou des parties de l'univers, par exemple les êtres vivants, déploient un arrangement que l'on explique le mieux comme le résultat de l'action d'un agent intelligent non humain. Ces faits ne peuvent pas être expliqués sur la seule base du hasard, de l'ordre naturel et du temps, même pris ensemble. Les données invoquées sont variables et peuvent inclure les éléments suivants, l'ordre, la simplicité, la complexité et la beauté au niveau microscopique et ou macroscopique. Oui, le réglage fin de l'univers et de la vie, on va le voir dans le point suivant, nous font discerner qu'il y a un dessein par derrière, qu'il y a une volonté, qu'il y a une intelligence incroyablement supérieure qui est derrière cet univers ordonné et fonctionnel. Et Alfred Kastler, que vous connaissez bien évidemment, prix Nobel de physique en 1966, dit « Je ne peux pas et personne ne peut comprendre l'univers sans une finalité. » Roger Penrose, un autre scientifique qui a travaillé sur la théorie des trous noirs, a estimé la possibilité qu'un Big Bang forme un univers ordonné, pas que le Big Bang existe, mais que du Big Bang sorte de l'ordre, un univers ordonné. Il a parler d'une probabilité de 1 multiplié par 10 à la puissance 123. Je laisse les mathématiciens imaginer 123 zéros, ce que ça peut donner comme probabilité. Et il ajoute, c'est comme si on voulait atteindre une cible de la grandeur d'un pouce à l'autre bout de l'univers, avec une flèche. Vous avez à peu près autant de chances que ça donne un univers ordonné que d'atteindre la cible de l'autre côté de l'univers. C'est parlant, peut-être plus que les 123 zéros. Alors je termine sur ce point avec la synthèse que Lydia Yeager fait de cet argument téléologique, elle le reformule, c'est intéressant. Elle dit « Les lois de la nature existent, on le constate, l'existence de Dieu explique l'existence des lois de la nature, aucune autre explication n'est satisfaisante, les lois de la nature demandent une explication, donc Dieu existe. » C'est l'argument téléologique reformulé. Il faut que j'accélère un petit peu. Le troisième argument, c'est celui du vivant qui est d'une incroyable complexité. Et là, nous allons donc parler de nous, du vivant. Et cette complexité, cette incroyable complexité du vivant rend l'apparition aléatoire de la vie extrêmement, voire complètement impensable, improbable, inimaginable. Et ce que nous avons constaté à l'échelle de l'univers, nous le constatons à l'échelle du vivant, mais dans des proportions encore beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que là, les probabilités, c'est plus juste quelques zéros, là, 120, mais on est à des dizaines, des centaines de milliers de zéros dans les probabilités. Tous les mécanismes de la vie sont d'une incroyable précision et d'une incroyable complexité et demandent des hasards qui n'existent pas pour que la vie apparaisse spontanément. Et comme l'écrit Timothy Cross, les chances pour que la vie apparaisse par pur hasard sont une impossibilité mathématique aux dimensions infinies. D'un point de vue statistique, la probabilité que les constantes initiales au moment du Big Bang soient bien réglées, c'est de 1 multiplié par 10 puissance 60. Alors c'est compliqué d'imaginer ce que c'est ces chiffres-là. Je vous dis juste qu'un milliard, c'est 10 puissance 9. Donc un milliard, ça commence à être un petit peu difficile à imaginer ce que c'est déjà beaucoup. Mais voilà, 10 puissance 60, c'est milliards, 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 vous voyez, c'est juste énorme. C'est des chiffres qui nous dépassent. Ça, c'est pour le réglage de la vitesse initiale au moment du Big Bang. Maintenant, quand on parle de probabilité que la vie apparaisse d'elle-même, on est à 1 multiplié par 10 puissance 340 000. 340 000 zéros. Voilà, il y avait une chance sur ce chiffre-là que ça se produise. Et encore, quand la vie jaillit, encore faut-il qu'elle se maintienne. Ça peut avorter tout de suite après. Et donc vous êtes reparti pour un tour. Une impossibilité mathématique aux dimensions infinies. Dans sa théorie de l'évolution, Darwin a parlé de l'apparition de la première cellule, un organisme unicellulaire, et il en a parlé comme d'une simple cellule. Voilà les termes qu'il utilise. Une simple cellule qui est apparue. Et en réalité, on sait aujourd'hui que cette affirmation n'est plus possible et qu'elle ne correspond absolument pas à la réalité. Une simple cellule, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que la plus simple des cellules est d'une complexité incroyable. Je vais essayer de vous le démontrer rapidement. Et je cite Timothy Cross en longueur, pour qu'on prenne un peu la mesure de la complexité d'une cellule, parce que je sais que comme moi, pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas des choses qu'on lit tous les jours. Voilà ce qu'il dit. Chacune des cellules de votre corps, chacune, contient 20 compartiments séparés, un peu comme des chambres. L'ADN se trouve dans l'une de ces chambres. Et l'ADN contenu dans l'une de ces petites chambres d'une cellule est composée de plus de 3 milliards de codes ADN. Déjà là, échantillon d'informations, et chaque code est à son tour composé de 4 petites molécules de 6 atomes chacune. Si vous pouviez extraire l'ADN ne serait-ce que de l'une des cellules de votre corps, pour l'étirer, vous obtiendrez une mèche longue de 2 à 3 mètres. Et si vous pouviez extraire tout l'ADN de votre corps, toutes les 40 000 à 100 000 milliards de cellules de votre corps, là le chiffre varie entre les scientifiques et surtout parce qu'il y a des petits, il y a des grands et que ça ne fait pas le même nombre de cellules, 40 000 à 100 000 milliards de cellules, et si vous les attachiez bout à bout, cette mèche d'ADN serait assez longue pour faire le tour de tout notre système solaire. Imaginez un instant. Avec le Soleil et toutes les planètes. Nous savons également qu'il y a au moins 72 milliards d'atomes dans chacune des cellules de votre corps, si on ne compte que l'ADN. Et nous n'incluons même pas les 19 autres chambres que contiennent chaque cellule, et nous ne comptons pas non plus les particules subatomiques de chaque atome, comme les électrons, les protons, les neutrons. Est-il raisonnable de penser que tout cela s'est formé par chance, par des processus aléatoires? Et je lisais encore que, ça c'est des choses qu'on entend régulièrement, que dans un seul brin d'ADN, il y a autant d'informations que dans toute l'encyclopédie Universalis, par exemple. Alors quand nous avons dit tout ça, en réalité, nous n'avons encore rien dit de la complexité de cette petite cellule. Puisqu'on n'a parlé que d'une chambre sur les 20 qui la composent. Alors, je redonne la parole à Timothy Cross. Pour les besoins de la cause, faisons un instant comme si l'ADN était apparu par hasard. Réalisez-vous que nous n'aurions pas encore de cellules vivantes? Tout ce que nous aurions, ce serait le moteur, mais pas la machine. Nous n'aurions que l'une des 20 chambres qui permettent d'avoir une cellule humaine. Pour que la vie soit possible, il faudrait également la présence d'hydrates de carbone, de lipides, de phosphates à haute teneur énergétique, d'hormones, de caroténoïdes, d'alcaloïdes, d'ARN, d'un bon pH, d'une membrane cellulaire lipidique avec des pores du bon diamètre pour permettre le passage de substances dans et hors de la cellule, d'un réticulum endoplasmique pour la synthèse des protéines et le transport intracellulaire d'un ARN de transfert, d'un ARN ribosomal, d'un ARN messager, d'un appareil de Golgi pour la synthèse et la modification des glycoprotéines. Bon, vous savez tout ça, hein, mais de centaines de mitochondries pour fournir l'énergie nécessaire à la cellule, de lysosomes pour abriter les enzymes digestives, des ribosomes par milliers pour la production de protéines, de centrioles pour aider à la division cellulaire, d'une membrane nucléaire pour abriter les chromosomes et de nucléoles pour abriter les complexes ARN protéines. Et là, nous ne parlons que d'une seule cellule. Que d'une seule cellule. Et quand bien même, dit Timothy Cross, tous ces éléments seraient présents, cela ne garantit pas encore l'existence de la vie, car ils devraient s'assembler dans les bonnes proportions, juste au bon moment, sous un climat favorable, juste à la bonne température, et sans que le soleil ne diffuse trop de rayons ultraviolets. Et bien sûr, sans nourriture, cette pauvre cellule mourrait. Oups, retour à la case départ, vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. Même si nous avions toutes ces composantes, il faut encore que tout ça, ça se mette ensemble de la bonne manière, dans les bonnes proportions. Et puis, le mystère le plus important peut-être ici, c'est le passage de l'inerte au vivant. C'est une chose d'assembler des... C'est pas pour ça que c'est vivant. Le passage de l'inerte au vivant, comment se fait-il ? Est-ce seulement possible que l'inerte devienne vivant ? Alors, il y a une théorie qui a longtemps prévalu dans ce domaine, c'est la théorie, midi approche, c'est la théorie de la soupe primitive. D'où serait issue la première cellule ? Alors, c'est quoi cette soupe primitive ou cette soupe primordiale ? C'est Darwin qui le premier en a parlé en 1850, qui a théorisé cette idée. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, dans le processus de formation de l'univers, la vie serait née dans une soupe avec plein d'ingrédients, là, dans un mélange de toutes sortes de choses qui étaient présentes, du carbone, du soufre, de l'hydrogène, du potassium, de l'azote, du magnésium, du phosphore, du méthane, etc. etc. Hein, tout ça était là, et puis hop, il y a une cellule qui serait sortie, la première cellule. Alors, qu'ont fait les scientifiques ? Dans les années 50, 60 et 70, de grands laboratoires américains ont financé des expériences pour essayer de faire sortir une cellule à partir d'une soupe primitive. Alors on a réuni tous ces éléments, on a tout mis là-dedans, on a mis de la chaleur, on a mis de la pression, on a mis des courants électriques, de l'électromagnétisme, on a fait toutes sortes de choses, on a secoué ça dans tous les sens. Les expériences ont eu lieu pendant 30 années, jamais. Aucune cellule, ni rien qui s'en approche, n'est sorti de ces soupes primitives. Et puis un jour, ces expériences se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées pour ne jamais reprendre. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a découvert, on a compris la complexité d'une seule cellule. Et quand les scientifiques ont compris là, tout ce que je viens d'essayer de vous montrer maladroitement, quand ils ont compris la complexité d'une seule cellule, ils se sont arrêtés d'essayer de faire jaillir cette cellule d'une soupe primitive. Et aujourd'hui, plus aucune recherche n'est financée dans ce domaine. En tout cas, ce que j'ai lu, ça date de 2018. Je ne sais pas si quelqu'un a repris depuis. Mais en tout cas, plus personne ne tente de faire apparaître une cellule vivante à partir d'une soupe primitive, dit Olivier Bonassis. Parlons vite, rapidement, de probabilité à nouveau. Et Tom Short, c'est un autre auteur que j'ai consulté, dans son livre dit ceci. D'après le grand astrophysicien Sir Frederick Hoyle, la probabilité que la vie biologique se développe spontanément correspond à la possibilité que 10 puissance 51 aveugles sachent résoudre un cube magique, j'imagine que c'est un Rubik's cube, simultanément. donc 10 avec 51 zéros aveugles qui, au même temps, arrivent à résoudre le Rubik's Cube. Voilà la probabilité. Et ce Sir Hoyle prétend qu'il est plus probable qu'un Boeing 747 se construise tout seul à la suite d'une tempête sur un parc de ferraille qu'il n'est possible que la vie se développe spontanément. Voilà, ça donne l'idée, hein, c'est une illustration qui nous fait comprendre le caractère hautement improbable de la chose. Et là, nous n'avons parlé que d'une seule cellule, hein, j'insiste, que de l'apparition d'une seule petite cellule. On ne parle pas d'organisme complexe. On parle d'une cellule, d'un être unicellulaire. Et pour que la vie apparaisse, il faut ce qu'on appelle le complexe irréductible. Le complexe irréductible. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La complexité irréductible est la thèse selon laquelle certains systèmes biologiques sont trop complexes pour être le résultat de l'évolution de précurseurs plus simples ou moins complets du fait de mutations au hasard et de la sélection naturelle. Je passe sur celui qui l'a inventé, etc. Un système de complexité irréductible étant composé de plusieurs parties ajustées et interagissantes qui contribuent chacune à sa fonction élémentaire alors que l'absence d'une quelconque de ces parties empêche le fonctionnement du système. Puis il donne quelques exemples. Alors, dit peut-être avec des mots plus simples, l'apparition d'une cellule, c'est une chose, l'apparition d'un système biologique complexe, c'est tout autre chose. Et comment on passe de l'un à l'autre, c'est la vraie question. C'est autrement difficile, voire impossible, quand chaque partie du système est nécessaire au fonctionnement du système. Vous voyez, c'est ça l'idée. Pour que le système fonctionne, il faut que ça préexiste, mais dans le fonctionnement de l'évolution, ça ne colle pas. Alors, c'est, je crois, ma dernière citation un peu en longueur, c'est Timothy Cross. Vous allez voir, c'est un exemple surprenant. J'ai quand même décidé de le garder, mais il est parlant. Et ça va dans la même veine que cette complexité irréductible. Voilà ce qu'il dit. Certaines choses sont si complexes et interdépendantes les unes des autres qu'il faudrait que tout un groupe d'éléments évolue exactement en même temps et précisément de la bonne manière pour que l'ensemble fonctionne. Ça, on comprend un petit peu mieux. Par exemple, étant donné que nous sommes des créatures sexuées, cela ne servirait à rien qu'il se développe quelque part un mâle avec un pénis pleinement fonctionnel s'il n'y avait pas quelque part une femelle avec un vagin pleinement fonctionnel. Comment aurait-il pu évoluer en même temps, tout en étant deux créatures séparées, de telle manière qu'il puisse engendrer une vie aussi complexe que celle que nous venons juste de décrire? Sans vouloir faire de l'humour, un pénis à moitié évolué ne servirait à rien, et sans un vagin pleinement développé pour recevoir le sperme et fournir sa nourriture au fœtus dans le ventre de sa mère, ce dernier ne serait jamais venu au monde. Que nous parlions de sauterelles ou bien d'êtres humains, la question des organes mâles et femelles évoluant ensemble dans des manières si différentes, chez tant d'espèces tellement variées, pose un problème de complexité irréductible pour les athées évolutionnistes. Il y aurait encore tellement d'autres choses à dire pour rajouter à tout ce que nous venons de dire. Si on commençait à regarder la complexité de l'œil, comment ça fonctionne, la complexité du cerveau, de la mémoire, de la pensée, des émotions, des sentiments. Puis après, si vous rentrez dans la complexité du corps humain, des fonctions, du système nerveux, du système vasculaire, respiratoire, squelettique, musculaire, cardiovasculaire, urinaire, endocrinien, tégumentaire, immunitaire, reproducteur, tout ça, ça fonctionne au même temps dans le corps humain. Et que dire ? Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de réactions biochimiques simultanées dans notre corps, à chaque seconde, exactement dans le bon ordre, dans le bon sens, dans le bon tempo, pour que tout fonctionne. Est-il raisonnable de penser, de concevoir que tout ça n'est que le fruit du hasard ? en fait l'incroyable complexité du vivant qui demande des réglages encore plus fins et encore plus fous que tout ce que nous avons dit pour l'univers, amène logiquement, raisonnablement à la pensée du Dieu créateur, à la pensée que ce Dieu créateur d'une infinie grandeur, d'une infinie puissance et d'une infinie sagesse, et à la pensée, comme le dit le psalmiste, que nous sommes des créatures merveilleuses. Et ça nous amène aussi à la pensée que ce Dieu merveilleux, ce Dieu si grand doit être adoré. Voilà les trois arguments. Je ne fais maintenant plus que évoquer les deux autres et puis je conclue rapidement. Je sais que c'est très long ce matin. Je vous prie de m'excuser pour ça. Alors, les deux autres arguments, c'est le premier, c'est celui qu'on appelle l'argument du consensus universel, qui souligne simplement qu'aucune société, à part peut-être aujourd'hui, mais aucune société n'a jamais vécu sans religion, jamais, sans l'idée d'un Dieu, quel qu'il soit, ni même sans morale. Et cet argument en conclut que cela ne peut s'expliquer que si Dieu existe. Et là, nous nous rapprochons d'un autre argument de Thomas d'Aquin, l'argument moral. Et on peut juste ici mentionner cette parole de l'Ecclésiaste qui dit que Dieu a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Et puis, deuxièmement, il y a l'argument des vies transformées. Je ne le développe pas, j'en ai parlé la dernière fois. Et je dis simplement ce que Stéphane Grokroger dit ici. Il dit « des milliers de gens prétendent avoir rencontré Dieu. Ils disent qu'il a changé leur vie. » Sans avoir à réfléchir plus de quelques secondes, je pense à des docteurs, des enseignants, des terrassiers, des maçons, des juristes, des femmes au foyer, des secrétaires, des enseignants, des terrassiers, qui tous pourraient parler de leur rencontre avec Dieu. Leur âge va de l'enfance à celui de la retraite. Ils sont d'originaires d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, ils sont noirs ou blancs, et il ne s'agit que de ceux que je connais personnellement. Il serait bien difficile d'affirmer que toutes ces personnes sont excentriques, crédules, ou manque d'intelligence. Alors, qu'est-ce qui a ainsi changé leur vie ? Le fait de croire qu'il existe réellement un Dieu et que l'on peut rencontrer et qui change les vies. Conclusion. Que conclure et que répondre à la question « Dieu existe-t-il ? » La réponse à cette question, elle est avant tout personnelle. Et personnellement, après avoir examiné les arguments des agnostiques, les arguments des athées, les arguments théistes, j'arrive à la même conclusion que Timothy Cross, je n'ai tout simplement pas assez de foi pour être athée. La science a-t-elle démenti Dieu ? Non. La science a-t-elle prouvé l'inexistence de Dieu ? Non. La science a-t-elle tué Dieu ? Non. Au contraire, en regardant ce que la science a découvert ces dernières décennies, nous constatons que Dieu a laissé partout dans sa création des empreintes digitales, partout, pour que nous puissions le voir. Et comme le dit encore Olivier Bonassis, un faisceau de preuves convergentes, rationnelles, indépendantes, qui vont toutes dans le même sens et qui, à la fin, donnent un paysage clair. Oui, Dieu existe et c'est par la foi que nous pouvons l'affirmer. Et nous faisons le constat, par la raison, c'est ce que nous avons fait ce matin, que nous avons de bonnes raisons de croire que Dieu existe et de le croire et d'affirmer que Dieu existe. Mais la raison et l'approche empirique ont leurs limites. S'il y a un faisceau de preuves rationnelles et empiriques convergentes, elles ne me disent rien de qui est Dieu. Savoir que Dieu existe, c'est bien, mais ça ne change rien à ma vie, à moins que je ne le rencontre personnellement par la foi. La foi qui est un don de Dieu, la foi qui nous permet de plaire à Dieu, la foi qui nous permet de nous approcher de Dieu, lui qui s'est en premier approché de nous, nous approcher de Dieu en croyant qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Peut-être n'avez-vous pas la foi. Peut-être n'avez-vous pas suffisamment de foi. Alors ma question, c'est pourquoi ne pas la demander sincèrement à Dieu ce matin ? Dieu qui donne toujours ce qui est selon sa volonté, à celui qui demande, qui cherche, qui frappe sincèrement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors Dieu existe-t-il ? La Bible nous dit, au psaume 14, verset 1, que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et cette même Bible dit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19 à 20, que ce déni de Dieu est en réalité volontaire, parce que les hommes retiennent la vérité captive, dit l'apôtre Paul. Et ils retiennent la vérité captive parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Nous venons d'en parler, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est ainsi que la question « Dieu existe-t-il » devient « Est-ce que je crois que Dieu existe ?» Et si je crois que Dieu existe, est-ce que je le recherche ? Chers amis, si Dieu existe, alors rien n'est plus important que de le connaître et que de le rechercher. C'est le fameux pari de Pascal. Vous le connaissez sans doute, et ça a été reformulé ici, toujours par Lydia Geiger, qui dit, première hypothèse, Dieu existe et nous choisissons de croire en lui, nous gagnons la vie éternelle. Deuxième hypothèse, Dieu existe et nous choisissons de ne pas croire en lui, nous perdons la vie éternelle. Troisième hypothèse, Dieu n'existe pas et nous choisissons de croire en lui, nous perdons alors les joies d'une vie sur terre qui ne se soucie pas des restrictions des commandements divins. Quatrième hypothèse, Dieu n'existe pas et nous choisissons de ne pas croire en lui. Nous gagnons alors les joies d'une vie insouciante sur terre. Et elle conclut, c'est ma dernière diapo, par conséquent, si l'on choisit Dieu, le gain possible est infini, la vie éternelle, tandis que la perte possible, la vie terrestre, est finie et ne pèse pour rien face à l'infini. Du coup, le choix raisonnable consiste à croire en Dieu, peu importe s'il existe ou s'il n'existe pas. Bon, ça c'est le pari de Pascal. Cet argument pragmatique, en tout cas, nous invite à la prudence, à la sagesse, à bien réfléchir à notre question sur l'existence de Dieu et à ne pas l'évacuer trop vite, surtout si elle nous bouscule. Voilà, je m'arrête là, que le Seigneur nous aide chacun dans notre recherche et dans la compréhension de ces choses. Ça sera pour sa gloire et ça sera aussi pour notre plus grand bien. Merci d'avoir patienté avec moi. Amen.